de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joko Widodo part pour les Émirats Arabes Unis pour assister au sommet de la COP28. L'ambassadeur du Japon, Kenji, a terminé son service en Indonésie. Lycée français de Jakarta organise un championnat de badminton entre les lycées français de la région d'Asie du Pacifique. Le ministère de l'Industrie tente de faire de l'Indonésie l'épicentre de l'industrie mondiale de transformation du cacao. Le ministère du Tourisme et du Commerce Créatif révèle les 5 principaux pays d'origine des touristes étrangers en Indonésie. KKP USAID collabore au programme collectif USAID. Voici le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo et une délégation limitée ont quitté la base militaire nationale indonésienne de l'armée de l'air Halim Perdana Kusuma, Jakarta, jeudi 30 novembre 2023, pour les Émirats Arabes Unis. Le président, dans un communiqué de presse avant son départ, a déclaré qu'aux Émirats Arabes Unis, il assisterait au 28 sommet des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ou COP28. Le président transmettra le point de vue de l'Indonésie et l'importance de la collaboration mondiale pour résoudre le changement climatique.
Khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target.
En particulier, l'engagement des pays développés en faveur du financement climatique vise principalement à atteindre l'objectif de zéro émission nette. Lors de ce sommet COP28, je transmettrai l'expérience d'Indonésie et soulignerai l'importance de la collaboration mondiale pour le financement climatique ainsi que l'importance d'une transition inclusive pour assurer le développement durable et le bien-être de la société dans les pays en développement. Selon le chef de l'État, les espoirs du monde envers la COP28 sont très grands pour qu'il y ait une véritable action mondiale pour limiter la hausse des températures dans le monde. Au cours de cette visite de travail, le président devrait également assister à l'événement de dirigeants, transformer les systèmes alimentaires face au changement climatique, au sommet du G77 et de la Chine, ainsi qu'à plusieurs réunions bilatérales. Kanasugi Kenji terminera son mandat d'ambassadeur du Japon en Indonésie le 5 décembre 2023. Lors de sa réception d'adieu à l'hôtel d'Indonésie Kempinski, l'ambassadeur Kenji expliquait l'importance de poursuivre la collaboration entre les deux pays dans divers secteurs.
Japan and Indonesia are two of the largest maritime democracies in the world. At the same time,
Le Japon et l'Indonésie sont deux des plus grandes démocraties maritimes du monde. Dans le même temps, l'Indonésie est en paix avec une population jeune, énergique et croissante. Le Japon est malheureusement une société vieillissante avec une population en diminution. Ainsi, nos deux pays ont à la fois des points communs et une complémentarité nous permettant de renforcer la collaboration dans une variété de secteurs à l'avenir. Kenji a commencé à servir comme ambassadeur du Japon à Jakarta en février 2021. L'ambassadeur Kenji a également déclaré dans son discours d'audio qu'il était optimiste quant à l'amélioration des relations bilatérales entre le Japon et l'Indonésie à l'avenir. L'ambassadeur Kenji commencera sa nouvelle mission à Pékin en Chine, tandis que son poste actuel sera remplacé par Masaki Yasushi. La France organise des compétitions de badminton pour les élèves de lycées français de la région d'Asie et du Pacifique. Le lycée français de Jakarta, en tant qu'organisateur, a invité environ 144 participants provenant de lycées français de la région d'Asie et du Pacifique, notamment de Singapour, du Vietnam, du Cambodge, du Laos, d'Australie et d'Indonésie. Ce concours qui a lieu cette fois a été officiellement ouvert par l'ambassadeur de France en Indonésie, Fabien Penon, au lycée français de Jakarta, jeudi 30 novembre. L'ambassadeur Fabien Penon a déclaré à Voice of Indonesia que le badminton avait été choisi pour la compétition parce que ce sport devenait de plus en plus populaire en Europe. Cette compétition de badminton entre les élèves de lycées français de toute la région d'Asie et du Pacifique se déroule du 30 novembre au 2 décembre 2023. Cette compétition entre les lycées français a été arrêtée pendant plus de 2 ans pendant la pandémie jusqu'à sa réouverture en 2023. Le ministère de l'Industrie tente de faire de l'Indonésie l'épicentre ou le centre de l'industrie mondiale de transformation du cacao, car l'Indonésie est le troisième producteur mondial de cacao avec une production totale d'environ 700 000 tonnes par an. Siska Dekare, le directeur de l'industrie des boissons, des produits de tabac et des ingrédients de rafraîchissement du ministère de l'Industrie, et du Sutopo à Jakarta, jeudi 30 novembre, cité par l'agence de presse Antara. Selon Edi Sutopo, il existe actuellement 11 entreprises de transformation du cacao en Indonésie. Pour devenir l'épicentre mondial du secteur du cacao et de ses produits transformés, le ministère de l'Industrie collaborera avec diverses parties de l'amont à l'aval. Selon Edi Sutopo, l'Indonésie excelle dans les produits tels que la pâte ou liqueur de cacao. Le ministère de l'Industrie sera proactif dans la mise en œuvre de divers programmes et politiques afin d'encourager la performance des industries basées sur le cacao, par exemple en maintenant la disponibilité des matières premières. Le ministre du Tourisme et de la Communication, Sandiaga Uno, a révélé que les 5 principaux pays contribuant aux visites touristiques étrangères en Indonésie cette année sont l'Australie, la Malaisie, Singapour, l'Inde et le Royaume-Uni. Parmi les 5 pays les mieux classés, l'Inde est considérée comme très forte. C'est pourquoi l'Indonésie doit être prête à augmenter le nombre de promotions et de vols directs pour augmenter le niveau d'arrivée des touristes en provenance de ces pays. C'est ce qu'a déclaré Sandiaga Uno lors d'une conférence de presse à Jakarta, jeudi 30 novembre, cité par Antara. Selon Sandiaga Uno, l'objectif de visites touristiques étrangères cette année a été dépassé de près de 50% par rapport à l'objectif initial total de 7,4 millions de visites. Le nombre actuel de visites s'élève à près de 11 millions de visites. La destination préférée reste à 50% vers l'île de Bali. La Direction générale de la gestion marine et de l'espace marin du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, KKP, collabore avec l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, à travers le programme de l'USAID de conservation marine efficace, en abrégé collectif. Les deux parties préparent la formation d'une unité régionale de mise en œuvre technique, UPTD, et la mise en œuvre de modèles de gestion financière pour les agences régionales de services publics, BLUD, pour soutenir l'efficacité de la gestion des zones marines protégées. C'est ce qu'a transmis le directeur général de la gestion marine et spatiale marine du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, KKP, Victor Gustave Manopo, à Jakarta, jeudi 30 novembre, cité par Antara. Pendant ce temps, le chef du collectif de l'USAID, Wawan Ridwan, a déclaré que le collectif de l'USAID soutient en renforçant les ressources humaines et le financement durable dans 13 zones de conservation marine dans 5 provinces. Cédrita, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Hamas et Israël acceptent de prolonger le cessez-le-feu » avec moi Audrey. Chargé tard, le Hamas et Israël ont convenu jeudi dernier, 30 novembre, de prolonger à 7 jours leur cessez-le-feu de 6 jours. Avec cet accord, les négociateurs des deux parties disposent d'un jour supplémentaire pour continuer à tenter de parvenir à un accord sur l'échange des otages détenus à Gaza avec des prisonniers palestiniens. Le cessez-le-feu a permis à l'aide humanitaire indispensable d'entrer à Gaza après qu'une grande partie du territoire côtier de 2,3 millions d'habitants aient été laissés en ruine par les bombardements israéliens en réponse à une attaque mortière des militants du Hamas le 7 octobre. Le Hamas qui a libéré ses otages en échange de 30 prisonniers palestiniens mercredi dernier 29 novembre a déclaré dans un communiqué que le cessez-le-feu se poursuivrait jusqu'au 7e jour. Pendant ce temps, l'armée israélienne, dans un communiqué publié quelques minutes avant l'expiration du cessez-le-feu temporaire à 5 heures du matin, heure locale, a déclaré que la pause opérationnelle se poursuivrait à la lumière des efforts des médiateurs pour poursuivre le processus de libération des otages et sous réserve des termes du cadre. Selon un porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, principal médiateur entre les parties en conflit avec l'Égypte et les États-Unis, les conditions du cessez-le-feu, notamment la cessation des hostilités et l'afflux de l'aide humanitaire, resteront les mêmes. Auparavant, le Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU, avait adopté la résolution 2712 qui appelait à la prolongation de la pause humanitaire urgente dans la bande de Gaza afin de faciliter la fourniture des biens et services essentiels à la population locale. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi dernier, 29 novembre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné la nécessité d'un véritable cessez-le-feu humanitaire et de parvenir à une solution à deux États. La réunion du Conseil de mercredi a coïncidé la commémoration de la Journée internationale de solidarité avec les Palestiniens célébrée chaque 29 novembre depuis 1977. Jusqu'à l'annonce du cessez-le-feu vendredi 24 novembre, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a déclaré que plus de 15 000 Palestiniens, dont plus de 6150, comme l'a déclaré le secrétaire général de l'ONU. On espère que la Hamas et Israël parviendront à un cessez-le-feu complet et à une solution pacifique permanente, afin que chaque partie puisse recommencer et construire sa nouvelle vie en paix. Bon, cher Jolitar, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 1er décembre 1956, Mohamed Hatta a démissionné de son poste de vice-président de la République d'Indonésie. Mohamed Hatta est un homme d'État indonésien et un activiste de l'indépendance de l'Indonésie, qui est devenu le premier vice-président de l'Indonésie, accompagnant Sukarno en tant que président. Avec Sukarno, Hatta est l'un des proclamateurs de l'indépendance indonésienne le 17 août 1945. Il a signé le texte de proclamation. Lorsqu'il était vice-président, Hatta a pris des décisions importantes dans l'histoire indonésienne, telles que la déclaration du 3 novembre 1945 qui a permis la création des partis politiques et établi une politique étrangère libre et actif, à laquelle l'Indonésie adhère encore aujourd'hui. Plusieurs facteurs, y compris les relations tendues avec Sukarno en raison de différences d'idées, a fait Hatta à démissionner de son poste de vice-président le 1er décembre 1956. Le poste de vice-président est devenu vacant jusqu'en 1973. Sri Sultan Hamengkubuwono IX a été nommé vice-président pour accompagner le président Suharto. Le 1er décembre 1988, Benazir Bhutto est nommé premier ministre du Pakistan. Le 1er décembre 1988, Ghulam Ishaq Khan, le président du Pakistan, a officiellement nommé Benazir Bhutto premier ministre du Pakistan. Le parti qu'il dirige, le Parti du peuple pakistanais, a remporté les élections du 16 novembre. Lors des élections organisées après la chute du régime militaire dirigé par Zia-ul-Haq, le Parti du Peuple Pakistanais a obtenu 37,66% des voix. La fille de Zulfikar Ali Bhutto, l'ancien président renversé par Ziaul Haq, est ensuite devenu premier ministre jusqu'en 1990, puis a de nouveau été premier ministre du Pakistan de 1993 jusqu'en 1996. Benazir Bhutto est devenue la première femme à diriger le Pakistan, ainsi que la première femme à diriger un pays à majorité musulmane. Le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. La journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée depuis 1988 pour sensibiliser l'opinion publique au sida. Cette maladie qui attaque le système immunitaire humain est causée par le virus VIH et se propage par contact direct avec des fluides corporels contenant le VIH. La Journée mondiale de lutte contre le sida a été inventée pour la première fois en août 1987 par James W. Byrne et Thomas Netter, des responsables de l'information du Programme mondial de lutte contre le sida à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, en Suisse. Selon les données de l'OMS pour 2021, plus de 38 millions de personnes dans le monde souffrent du sida et plus de 40 millions de personnes sont mortes de cette maladie. Cette année, le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida est « Confier le leadership aux communautés » pour marquer l'impact important qu'une communauté de façonner la réponse au VIH et au sida dans le monde entier. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Aku masih ingat beranikan diri menyapa percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat pernah ku tunggu semalaman, pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Ini aku yang tak menyerah, meski tak menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, voici Mon Indonésie, ayant pour le titre... Le ministère de l'Industrie tente de faire l'Indonésie l'épicentre de l'industrie mondiale de transformation du cacao. Le ministère de l'Industrie tente de faire l'Indonésie l'épicentre ou le centre de l'industrie mondiale de transformation du cacao. En effet, l'Indonésie est le troisième producteur mondial de cacao avec une production totale d'environ 700 000 tonnes par an. Il existe actuellement 11 entreprises de transformation du cacao en Indonésie, dont la valeur totale des exportations est enregistré à 1,12 milliards de dollars américains en 2022, soit le quatrième pays exportateur au monde. Cette industrie joue également un rôle de soutien à l'aval, ce qui augmente la valeur ajoutée du cacao national. Cesca de Carrière, le directeur de l'industrie des boissons, des produits du tabac et des ingrédients de rafraîchissement du ministère de l'Industrie, et du Sutopo à Jakarta, jeudi 30 novembre, cité par l'agence de presse Antara. Edi Sutopo expliquait que pour devenir l'épicentre mondial du secteur du cacao et de ses produits transformés, le ministère de l'Industrie collaborera avec diverses parties de l'amont à l'aval. Selon Edi Sutopo, l'Indonésie excelle dans les produits tels que la pâte ou liqueur de cacao, les gâteaux de cacao, le beurre de cacao et la poudre de cacao. La part de marché de ces produits indonésiens atteint 9,17% de la demande mondiale. Outre ce secteur, l'Indonésie dispose également d'un potentiel dans l'industrie du chocolat et dans l'industrie du chocolat artisanal. Quant à l'industrie du chocolat qui produit des produits de masse, il existe actuellement environ 900 entreprises avec une capacité de production totale de plus de 462 000 tonnes par an. La valeur totale des exportations de ce secteur atteindra 76,89 millions de dollars américains en 2022. Pour le secteur de l'industrie du chocolat artisanal, l'Indonésie compte 31 entreprises avec une capacité de production totale de 1242 tonnes par an en 2022. Généralement, l'industrie du chocolat artisanal utilise des matières premières de première qualité. Pendant ce temps, l'Indonésie compte plus de 600 variantes ou saveurs de chocolat originelles de diverses régions. Edi Sutopo a confirmé que le ministère de l'Industrie est proactif dans la mise en œuvre de divers programmes et politiques visant à encourager la performance des industries basées sur le cacao. Par exemple, en gardant la disponibilité des matières premières, sa partie soutient également les programmes de durabilité et de traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Sa partie augmente également les campagnes de consommation nationale de chocolat, organise des promotions lors d'expositions au niveau national et international et met en œuvre un programme de restructuration des machines de production. Le ministère de l'Industrie recrute également activement de nouveaux entrepreneurs dans le secteur de l'industrie de transformation du cacao. C'est Jorita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel intitulé Art Rontek avec moi Audrey. Chers auditeurs, le 18 novembre dernier, Régence Pachitan a organisé le festival Rontec 2023. Lors de ce festival, la Rontec a été jouée par 12 sous-districts de Pachitan qui ont présenté leurs offres d'art Rontec respectives. Le spectacle présente une variété de variations allant des mouvements de danse époustouflants aux légendes folkloriques locales. Outre le spectacle Rontec lors du festival, la communauté a également été diversifiée par divers types d'art culturel traditionnel et par un marché MPME impliquant 50 acteurs MPME. Chers amis, comme son nom l'indique, le festival Rontec met en avant la Rontec comme représentation principale. Le Rontec est un art traditionnel pachitan. Rontec se compose de deux mots ronda et tek-tek. Ronda signifie faire le tour pour maintenir la sécurité. Le tek-tek fait quant à lui référence au son produit par les instruments de musique en bambou. Ainsi, Rontec ou Ronda Tek-Tek peut être interprété comme une activité itinérante de maintien de la sécurité réalisée la nuit par un groupe de résidents à l'aide d'instruments de musique qui sonnent Tek-Tek. Pas seulement pour assurer la sécurité, Rontec est également utilisé pour réveiller les gens à l'aube. Rontec se compose d'instruments de musique en bambou. Lors de sa fabrication, le bambou est creusé au milieu en forme de carré pour produire un son rythme. Sur Jéhétard, la Rontec se développe de plus en plus. Au départ, la Rontec était jouée pour se réveiller pour un saour ou une patrouille. Aujourd'hui, cet art est devenu populaire car il compte de nombreux fans. En dehors de cela, Rontec continue également de s'adapter au goût de ses auditeurs. De nos jours, la Rontec n'est pas seulement jouée seule, mais combiné avec divers autres instruments de musique tels que les tambours, le knon, les gongs et la flûte, ce qui donne une musique agréable à écouter. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Dan ku awali saja beranikan untuk sekedar ending.
Voice of Indonesia.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur. Je vais vous présenter Blitong Geopark Run 2023 avec Maudry. Chers auditeurs, pour ceux d'entre vous qui aiment les sports de course, ne manquez pas la Blitong Geopark Run 2023. L'événement de course à pied Blitong Geopark Run aura lieu à Blitung, dans les îles Bangka Blitung, le 10 décembre 2023. Pendant qu'il court, les participants à l'événement pourront profiter de la vue sur ce géoparc mondial UNESCO. La piste de course couvrira les régions de Tanjung Kelayang et Tanjung Tinggi, district de Sijuk. Le point de départ de la course est situé sur la page de Tanjung Kelayang, ciblant 1000 participants. La Blitong Geopark Run 2023 sera une série d'activités d'échange pour les jeunes Indonésiens et Australiens. Serjami le régent adjoint de Blitung, Ishak Merobi, a expliqué que la course avec le slogan A Journey and Escape Race offre une piste aux contours naturels inhabituels. Blitung Geopark Run 2023 invite les coureurs à conquérir des contours naturels inhabituels tout en profitant de magnifiques vues naturelles et de richesses culturelles le long des géoparcs de Tanjung Kelayang et Tanjung Tinggi et en étant accueillis par une nature magnifique et les délices culinaires de Blitung. Au total, 42 jeunes, dont 21 Indonésiens et 21 Australiens, seront à Blitung en tant qu'ambassadeurs du tourisme et participeront à la Blitung Geopark Run 2023. Les participants sont ouverts aux ressortissants étrangers et aux citoyens indonésiens. L'inscription peut se faire en ligne sur le site officiel du Blitung Geopark Run. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Hey bos, coba dengar aku. Ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku. cerita tentangku dan semua teman gadisku.
C'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson pop régionale de Java occidental intitulée Tokechang. Chers amis, cette chanson a été écrite par R.C. Arjosubroto, compositeur musical des années 1950. Tokechang est une chanson généralement chantée par les enfants sundanais en accompagnement des jeux traditionnels. Derrière son rythme joyeux, ses paroles pleines d'esprit et son tempo rapide, la chanson Tokechang contient un message moral à partager et à ne pas être gourmand. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Java occidentale intitulée Tokechang. Bonne écoute!
Terima kasih.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.